Bonjour à toutes et tous. Nous allons tout de suite commencer par l'intervention de Christine Mongenod, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté cette invitation à venir nous présenter des résultats inédits d'une grande recherche sur les pratiques d'écriture des adolescents. Alors, vous êtes souvent des spécialistes de la lecture et du livre, mais vous allez voir que quand on met l'éclairage sur l'écriture, on peut tirer profit des observations qu'on peut faire dans ce domaine. Christine Mongenod, vous êtes maîtresse de conférences en littérature française. Vous avez co-créé et dirigé le master littérature de jeunesse, formation au métier du livre de la lecture pour jeunes publics à l'université de Cergy-Pontoise et plus précisément à l'INSPE de Versailles. Vos travaux portent essentiellement sur les pratiques de transmission, qu'il s'agisse des pratiques de lecture ou des pratiques d'écriture auprès des jeunes. Et vous avez à ce titre de nombreuses publications, des articles dans des ouvrages collectifs ou des ouvrages en propre. On chargera d'ailleurs votre biographie sur le site. Et vous êtes chargé de missions scientifiques et bénévoles à l'association Lecture Jeunesse, qu'une grande partie du public de cette journée d'études connaît sans doute assez bien. Et il se trouve que, justement, Lecture Jeunesse a un programme de recherche, un programme d'études, et que la BPI participe au conseil scientifique de l'association. C'est la raison pour laquelle nous vous avons invité. Mais je vais peut-être vous demander justement de commencer par représenter Lecture Jeunesse rapidement et rappeler surtout les objectifs de cette étude. On verra au cours de la journée qu'il est toujours intéressant de rappeler les commandes et, comme le disait Annie aussi, de mettre l'éclairage à la fois sur les résultats mais sur les méthodes aussi. Donc c'est ce qu'on vous a demandé de nous présenter aujourd'hui. Je vous donne la parole, Christine.
Eh bien, merci. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Donc, je suis tout à fait ravie de venir présenter quelques résultats. Ils ne seront pas tous là, bien sûr, parce que c'est une enquête très, très importante qui a été conduite depuis 2 ans. Et le rapport final paraîtra à l'automne, donc début octobre. Mais néanmoins, j'ai répondu avec beaucoup de plaisir à cette invitation parce que, justement, nous travaillons ensemble et parce que aussi, j'ai entendu tout à l'heure des mots auxquels, à titre personnel, je suis attachée, mais l'association dans laquelle je suis bénévole également, j'ai entendu le mot de transmission. Et je pense que c'est aussi notre rôle d'être là quand il y a des lieux comme ici où c'est effectivement une transmission qui s'opère avec différents professionnels. Donc voilà, alors pour revenir sur l'association Lecture Jeunesse, c'est le contexte dans lequel cette enquête est née. L'association Lecture Jeunesse, je ne vais pas faire un historique développé, mais donc existe depuis 1974. On fêtera ses 50 ans l'année prochaine. Et son but est vraiment de développer, de permettre aux jeunes de se construire en tant que sujet, futurs acteurs de la société, en développant chez eux les compétences de lecture, d'écriture, et nous avons encore associé plus récemment les compétences en matière de pratiques orales. Alors, ça fait tout un ensemble. L'association s'appelait Lecture Jeunesse au départ, c'est-à-dire que justement, elle était centrée sur ces pratiques spécifiques. Et en fait, la mise en œuvre progressive d'expérimentations, de projets sur le terrain, nous a rapidement amené à voir qu'en réalité, les activités de lecture ne pouvaient pas être disjointes d'autres activités, d'autres pratiques, et qu'il y avait tout intérêt à penser une articulation entre les activités de lecture, d'écriture et les pratiques orales. D'où l'élargissement progressif, d'une part de nos projets de terrain et d'autre part aussi de notre regard, notre veille sur ce qui se fait dans le domaine auprès des adolescents. Donc, l'association existe depuis près de 50 ans, mais elle a créé il y a maintenant 5 ans, un peu plus de 5 ans, en 2017, à l'incitation du ministère de la Culture, un observatoire de la lecture et de l'écriture des adolescents, observatoire dont le rôle est justement, d'une part, de... bien sûr, d'exercer une veille sur, ce qui, sur les pratiques un peu innovantes, sur ce qui émerge dans les expériences de terrain, etc. Veille aussi sur tout ce qui est publication de travaux de recherche, et justement à ce titre... nous avons aussi beaucoup, nous fréquentons beaucoup les travaux de l'ENSIB, les études de la BPI. Donc, il y a une circulation à travers tous ces objets. Et puis aussi, bien sûr, veille, rôle de veille, mais aussi rôle de proposition, de questionnement, d'enquête, de recherche sur des objets ou des pratiques qui nous semblent être jusqu'ici assez peu explorées, assez peu considérées. Voilà, donc il a ce double rôle. Et bien sûr, derrière, nous avons... Alors le premier pôle, c'est donc le pôle d'expérimentation, les projets de terrain dont je parlais en premier. Ce laboratoire qui constitue un second pôle de nos activités, et nous cherchons autour de ce que nous faisons nous-mêmes, ce que font les autres, ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, etc. Et puis un troisième pôle qui est le pôle de la transmission. Donc à la fois transmission sous forme d'information, et dans le cadre de l'association, nous avons une revue. Nous organisons aussi des colloques, un format que nous avons récemment créé, qui est un panier du médiateur, une petite session de 2 heures en ligne dans laquelle nous apportons une information conjointe d'un chercheur et d'un praticien de terrain. Donc transmission, et puis aussi formation, parce que information, je disais, et je distingue les deux, moi, information, et de l'autre côté, formation, donc auprès des médiateurs, à partir d'une part de nos propres expérimentations de terrain, et puis aussi des données que nous apporte l'Observatoire. Donc, il y a une espèce de circulation, j'espère l'avoir un petit peu montré, entre ces trois pôles. Donc, je reviens à l'enquête qui nous occupe aujourd'hui. Pourquoi cette enquête? Comment est-elle née? Alors, les enjeux de l'enquête, c'était justement de combler un vide qui était un vide de connaissances sur des pratiques effectives que pouvaient avoir les adolescents en matière d'écriture. Jusqu'ici, dans les dernières décennies, il y a eu un certain nombre d'enquêtes ou de travaux de recherche, dirons-nous plutôt, sur des pratiques spécifiques, des pratiques particulières. Vous avez peut-être fréquenté, lu des articles, il y a eu pas mal d'articles ces dernières années, par exemple, sur l'écriture de fanfictions, il y a eu des articles de recherche sur l'écriture des tweets, sur des linguistes se sont penchés sur justement des formes d'écriture, souvent numériques d'ailleurs, nées des pratiques numériques, mais voilà, c'était des regards très limités sur un objet. Ils étaient très intéressants en soi, mais ça ne donnait pas de vision un peu large de ce que font aujourd'hui des adolescents quand ils écrivent. D'abord, est-ce qu'ils écrivent? C'était une question, parce que là aussi, le démarrage de l'enquête, c'est autour de nous, nous entendons beaucoup de choses dites ou écrites sur, comme pour la lecture d'ailleurs, ils ne lisent plus, ils n'écrivent plus. Donc, chaque fois qu'on entend comme ça des discours assurés, défaitistes ou au contraire d'ailleurs très optimistes, je pense que c'est une incitation pour les chercheurs à les interroger, à aller voir de plus près ce qu'il en est. Donc, un certain vide, très peu d'enquêtes, pas d'enquêtes larges, et surtout très peu de travaux de recherche sur les pratiques extrascolaires des adolescents. Parce que, bon, moi, je viens du secteur de la didactique, de la littérature, hein, qu'elle soit lecture ou écriture. Bon, il y a des recherches didactiques sur ce qui se fait à l'école, au collège, et du coup, ce que l'on fait écrire aux élèves. Donc, là-dessus, on a quand même un certain nombre de travaux tout à fait solides. Bon, mais, en revanche, très peu de travaux, justement, sur les pratiques extrascolaires. Qu'est-ce qu'ils écrivent quand ce ne sont pas des commandes que leur fait l'institution scolaire en disant, voilà, il faut faire une suite de textes, il faut faire un exposé sur telle chose, etc. Quand j'ai commencé à essayer de faire un repérage, justement, bibliographique de ce qui existait sur la question, finalement, les seuls travaux qui avaient été lancés et qui portaient sur cette question étaient des travaux qui dataient des années 90. Et j'ai cité le nom de cette chercheuse parce que, justement, elle n'a pas eu beaucoup d'émules depuis. C'était les travaux de Marie-Claude Panlou. Et elle s'était intéressée à l'époque, quelque chose de très intéressant, elle s'était intéressée au journal des lecteurs dans les revues, dans les magazines, vous savez, J'aime lire, etc. Et elle était allée voir un peu ce qu'écrivaient les jeunes quand ils écrivaient dans ces journaux de lecteurs. Alors, c'était avant, et elle avait travaillé quand même sur un échantillon de 1500 auteurs de ces petites interventions. Donc, c'était pas du tout une enquête négligeable. Et elle avait eu aussi des entretiens avec eux. Donc, c'était une enquête assez fine. Hein. Depuis, pas grand-chose. Alors, donc, combler un vide, chercher à savoir ce qu'il en est. Mais ça veut dire que c'était pas du tout une commande. Hein. C'est une enquête qui est née d'une préoccupation et d'une interrogation que nous avions, nous. Alors, c'était un peu guidé en interne par les acteurs qui étaient là et qui se préoccupent de ces questions et qui ont un petit peu poussé sur ce terrain. Mais c'était donc dans ce cadre. Et l'autre élément qui cadre l'enquête, c'est un enjeu, justement. Ce n'est pas une enquête simplement qui a pour une visée descriptive. Elle est descriptive, hein, parce qu'on ne peut rien faire sans une description. Mais disons, pour nous, en tant qu'association, l'enjeu est de dépasser la simple description pour essayer de tirer de certains constats que l'on fait, soit des pistes, soit même des propositions, on verra si on peut aller jusque-là, hein, mais des pistes pour que dans les actions qu'ont les médiateurs auprès des adolescents, quand ils les font lire, quand ils les font écrire, justement, eh bien, ça nous donne quelques éléments, peut-être, pour concevoir autrement ces pratiques de médiation, les faire un peu évoluer, les déplacer, etc. Et je termine avec ça, ce premier élément de présentation. À mon avis, un des enjeux essentiels par rapport à des médiateurs de la lecture, c'est de leur montrer, ou s'ils n'en sont pas déjà persuadés, l'intérêt d'articuler les médiations autour de la lecture avec des médiations autour de l'écriture. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier élément de cadrage de l'enquête. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à la
très
premier
bien.
Élément de question. Voilà. Alors, si
sur les objectifs, justement, voilà, avant de parler de la méthode, bien sûr. Hein, puisque...
Voilà. Alors, sur les objectifs de ces enquêtes, il s'agit donc de dresser un état des lieux des pratiques adolescentes sans se réduire au seul contexte scolaire. Et sans, d'ailleurs, nous y avons fait très attention dans l'enquête que nous avons faite, dans le questionnaire que nous avons fait passer, le questionnaire quantitatif, sans introduire d'entrée dans la tête de ceux que nous interrogions le clivage, il y a écrire à l'école et il y a écrire en dehors de l'école. Parce que ça pouvait être un biais que nous aurions introduit tout de suite. Et à ce moment-là, on ne pouvait plus tellement dire, ben voilà, les jeunes, ils pensent d'abord à l'enquête, à l'écriture à l'école. Et puis, donc, on a veillé, on était très attentifs à ça. Christophe peut en témoigner dans nos discussions pour établir le questionnaire. Alors, je ne vais pas lister toutes les interrogations qui étaient les nôtres. Hein. J'ai retenu les principales qui ont guidé le format de l'enquête. En fait, première question, principale question, qui sont les jeunes qui écrivent? C'est-à-dire essayer de cerner, alors je n'aime pas tellement le mot profil, hein, ça fait un peu judiciaire, mais ce qu'il y a de sûr, c'est vrai que définir un peu des caractéristiques de ces jeunes dont on découvre qu'ils sont scripteurs. à quel type d'écriture recourt-il ? Voilà. Est-ce qu'ils écrivent des choses différentes ? Est-ce qu'ils ont des pratiques différentes également ? Et avec des usages différents de l'écriture, parce que c'était une question qui nous intéressait. Alors, bien sûr, avec quelle fréquence ? Et l'enquête quantitative, elle a bien sûr essayé de cerner justement cette question de la fréquence d'écriture. Alors, à partir de trois gros blocs de questions, écrivez-vous tous les jours, ou presque tous les jours ? Écrivez-vous parfois, quelquefois ? Ou écrivez-vous pratiquement pas ou pas du tout. Donc c'était vraiment les trois gros types de questions à partir desquelles on essayait d'obtenir une réponse. La deuxième grande question que l'on cherchait pour laquelle on cherchait des éléments de réponse, c'était les rapports qu'il pouvait y avoir aujourd'hui. Le titre, c'est au XXIe siècle, aujourd'hui, donc en 2022, 2023, entre l'écriture manuscrite et toutes les alternatives qu'offre aujourd'hui le numérique. Une des grosses questions, c'est est-ce que le numérique chasse le manuscrit, l'écriture manuscrite ? Est-ce que le numérique, alors les pratiques numériques au sens large, et entre autres ces fameux réseaux sociaux là qu'on incrimine constamment, est-ce que justement, d'une certaine façon, ils excluent des pratiques plus traditionnelles qui sont celles de la lecture, de l'écriture, en l'occurrence celles de l'écriture. Donc est-ce qu'il y a remplacement d'une pratique par une autre ? Est-ce qu'il y a complémentarité ? Et sur ce plan-là, pour le coup, les résultats de l'enquête sont assez intéressants. Et puis, une autre grande question, mais il y en avait bien d'autres, je l'ai retenue parce que c'est un peu subjectif, mais parce qu'elle m'intéresse particulièrement, c'est la distinction éventuelle entre genrer, dans les pratiques. Est-ce que, sur les questions qu'on se pose, on voit des distinctions nettes ou pas entre garçons et filles ? Est-ce qu'on peut en rendre compte donc par cette enquête ? Donc voilà comment nous sommes partis. Alors, des éléments de méthodologie. Donc, éléments de méthodologie, comment est-ce que l'enquête a démarré ? Eh bien, pour construire déjà le protocole de l'enquête, donc les différents questionnaires utilisés, les trames des entretiens, nous avons constitué un groupe de travail avec des chercheurs et un groupe justement polyvalent sur le plan disciplinaire, on dirait, dans les champs de spécialité des participants. Donc avec aussi bien des sociologues, des didacticiens de l'écriture, des chercheurs en communication, de façon à ce que, on ait une vision, puisqu'on abordait un domaine de l'écriture qui traditionnellement est le domaine privilégié des didacticiens. On ne voulait pas rester sur une enquête qui soit justement uniquement aux mains des didacticiens. Ils sont très intéressants, à s'enrichir des regards des sociologues ou des chercheurs en communication. Donc, constitution de ce groupe de travail. Et première étape, et c'est ce qui est à gauche dans le document projeté, ce groupe de travail a donc construit les hypothèses de l'enquête. Et il a également, lors de discussions, essayé de cerner, de déterminer des biais possibles dans l'enquête. Il a essayé aussi, je vais peut-être les garder pour la suite, il a d'abord essayé aussi de définir l'échantillon. Il y a eu beaucoup de discussions sur l'âge, les deux bornes d'âge de l'enquête, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on finit. Quand on dit les adolescents, vous savez que c'est une notion, je n'en reviens pas là-dessus. Mais alors, nous avons retenu 14-18 pour deux raisons, pas par référence historique, mais parce que 14, on est dans la fin du collège, et 18, on est dans la fin du lycée et on pouvait englober éventuellement la première année d'université. Donc ça permettait de, éventuellement, on verra que c'est pas toujours très pertinent dans les résultats, mais d'avoir une vision transversale et de voir s'il y a des écarts entre les réponses justement que font des élèves à la fin du collège, des jeunes à la fin du collège et des jeunes qui sont en fin de scolarité, en fin de secondaire. Alors, limite de l'échantillon, alors caractéristique de l'échantillon aussi, très grande attention à la diversité des publics sondés. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons essayé d'avoir un échantillon qui géographiquement soit diversifié, donc pas Île-de-France, non. C'est-à-dire en tenant compte d'une tripartition, on va dire métropole, en gros, très grosse ville, territoire périurbain et territoire ruraux, et de façon à avoir quelque chose d'assez le plus représentatif possible. Et puis je disais aussi, et donc je reviens là-dessus, discussion sur des biais possibles. Entre autres, vous savez que bon, quand on fait une enquête sur la lecture et qu'on demande aux jeunes « est-ce que vous lisez ?» avant de leur dire « qu'est-ce que vous lisez ?» il y en a quand ils disent « non, non, moi je ne lis pas ». Et ils répondent cela parce qu'ils ont une représentation de ce que vous engagez vous quand vous leur posez la question à propos du terme « lecture ». C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne lisent pas parce qu'ils pensent que pour vous, qui les interrogez, vous attendez d'eux qu'ils soient lecteurs de romans, de littérature, etc. Et c'est à ce titre qu'ils vous disent « non, non, je ne lis pas ». Donc pour l'écriture, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, quand si on commence par un questionnaire en disant « est-ce que vous écrivez tous les jours, de temps en temps, ou pas du tout ?», on a le même biais possible, c'est-à-dire de faire jouer les représentations des jeunes, les représentations a priori de ce que nous entendons, nous, par écriture, et à ce titre, ils répondent « non ». Donc, comment on a anticipé ce biais ? Eh bien, on a construit le questionnaire en tenant compte de cela. Et donc, c'est pour vous donner un exemple du travail méthodologique. Et donc, on pose une première question qui est volontairement très ouverte pour voir, et très ouverte, et qui va faire jouer à fond les représentations. Et puis, quelques questions plus loin, on pose une question avec des genres de lecture possibles, et on leur demande de cocher ce qu'ils lisent ou ne lisent pas. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là... ce qu'ils écrivent. Oui, c'est la déformation. Et à ce moment-là, on voit un écart entre la réponse à la première question, où certains, par exemple, déclaraient ne pas écrire, et où, en fait, lorsqu'ils sont face à une liste de choses qui peuvent être écrites et qui, par exemple, je donne un exemple, comportent des listes de choses à faire, écrire des listes de choses à faire, eh bien, à ce moment-là, ça, ils le cochent. Ça veut dire que pour eux, quand on leur dit « est-ce que vous écrivez ?», écrire une liste, ce n'est pas écrire. Donc, vous voyez, l'enquête aussi, elle vise à chercher un peu tous ces éléments-là. Alors, ensuite, le travail de ce groupe de recherche a été, bien sûr, de concevoir le questionnaire. Donc, questionnaire en ligne, passé en ligne, hein, c'est un questionnaire de 40 questions. Une quarantaine de questions, donc assez précis. Donc, il sera en annexe du rapport. Hein, je n'allais pas le présenter ici, mais je vous en ai donné un exemple, voilà, de conception de ce questionnaire. Et puis, dans les éléments de travail de ce groupe, la conception de la trame des entretiens qualitatifs, puisque nous avons accroché à l'enquête quantitative auprès de 1500 jeunes. Une enquête qualitative avec des entretiens auprès, cette fois, de 50 jeunes. Un petit déséquilibre, 18 garçons, 32 filles. Parce que ça reposait sur, bien sûr, nous cherchons des volontaires. Et apparemment, il y avait un peu moins de volontaires garçons que de volontaires filles. N'en tirons pas de conclusion tout de suite. Pour en terminer avec ces éléments méthodologiques, l'enquête a été conduite en trois temps. Un premier temps avec des focus group, parce que l'idée, justement, comme on se méfiait de notre propre tendance, nous adultes, avec nos propres secteurs de recherche de référence, etc., on se méfiait de nos représentations de ce qu'était l'écriture des adolescents, etc., on est passé par des focus group qui permettaient de les faire discuter pour voir ce qui spontanément venait quand ils discutaient entre eux autour de ces questions de l'écriture, etc. Et l'idée, c'était de tirer de ça des éléments que l'on pouvait du coup pointer dans le questionnaire et qui pouvaient nourrir les questions qu'on allait leur poser. Deuxièmement, donc l'enquête quantitative, je le disais, 14-18 ans. Cette enquête, elle a été, nous avons missionné à partir du questionnaire que nous avions élaboré et que nous avons ensuite un petit peu adapté avec le CREDOC. Nous avons missionné le CREDOC pour conduire cette enquête quantitative et le CREDOC nous a donné des éléments de résultats sous la forme justement d'un PowerPoint extrêmement détaillé dont nous nous servirons bien sûr dans le rapport final. Enfin, l'enquête qualitative, donc ces 50 entretiens, ils ont été conduits par une chercheuse qui faisait partie d'ailleurs du groupe de travail qui avait donc élaboré l'ensemble de l'enquête. Il s'agit d'Anne Cordier. Donc Anne Cordier, son nom pour vous est peut-être associé aux derniers travaux qu'elle a publiés sur les usages en fait de numériques hein, des jeunes aujourd'hui. Elle s'intéresse beaucoup à ces questions. Elle est chercheuse en sciences de la communication et de l'information. Donc, elle était particulièrement bienvenue ici pour parler de ces questions avec les jeunes. Et dernier point sur ces entretiens qualitatifs, l'idée, c'était d'affiner des éléments de réponse de l'enquête quantitative, et c'était aussi de pouvoir avoir recours à des choses que ne permet pas le questionnaire, qu'il soit d'ailleurs en ligne ou sur papier. C'était par exemple de faire raconter des choses aux jeunes, raconter des éléments de leur pratique. Et puis c'était aussi éventuellement, quand on pouvait le faire, de leur faire apporter des écrits qui leur paraissaient, qu'ils avaient envie de montrer. Donc là aussi, vous voyez, ça permettait d'aborder la question de manière beaucoup plus, je dirais, en entrant un peu plus dans l'effectif des pratiques et pas seulement dans le discours, puisque nous savons tous qu'un des écueils méthodologiques aussi de ces enquêtes, c'est qu'elles reposent sur le déclaratif. Et que donc, une des grandes difficultés, c'est d'aller au-delà du déclaratif pour essayer d'atteindre la réalité. Alors, je ne vais pas être exagérément optimiste et dire que nous l'avons fait dans cette enquête, mais nous avons du moins essayé de le faire.
Alors, voilà. Des résultats,
parce que tout ceci est bel et bon. Alors, les résultats, j'ai classé les éléments de résultats de cette enquête en deux grands groupes. Je dirais que d'un côté, alors je vais être déceptive, il y a des choses auxquelles on pouvait s'attendre. Et qui se trouve en fait confirmé. Et puis de l'autre côté, je l'ai gardé pour la fin, des éléments auxquels on ne s'attendait pas forcément et qui, à mon avis, ouvrent des pistes intéressantes. Alors, quelques hypothèses confirmées, vous les voyez ici. Première hypothèse confirmée, c'est très très fort, c'est le déterminisme de l'environnement culturel familial et plus largement la sociologie des parents par rapport aux réponses et aux pratiques qui sont déclarées chez les adolescents. Et j'ai retenu un chiffre, vous voyez, dans tous les chiffres qui nous sont donnés, parce que voilà, j'ai fait à chaque fois, j'en ai retenu un, mais il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. C'est un chiffre qui est intéressant, c'est que quand les jeunes disent qu'écrire, ça ne sert à rien ou à pas grand-chose, c'était une question de l'enquête, eh bien, 33% de ces réponses, eh bien, quand on les regarde, on s'aperçoit qu'elles sont étroitement corrélées avec les CSP- des parents, d'une part, et ça va avec la catégorie d'établissement fréquenté par le jeune qui a répondu, qui a produit cette réponse. Donc là, on voit quand même que il y a un élément extrêmement fort de ce côté-là et que ça n'a pas, peut-être pas énormément bougé depuis un certain nombre de décennies. Donc ça, c'est un chiffre quand même qui fait, même s'il n'est pas inattendu, il fait quand même réfléchir. D'autre part, deuxième point auquel on pouvait s'attendre, une question qu'on se pose, c'est on se dit souvent, ceux qui écrivent, ce sont ceux qui lisent. Bon, donc nous avons souhaité quand même le vérifier, parce qu'une chose est de le dire, une chose est de le vérifier. Eh bien, effectivement, il y a une prime au lecteur pour être scripteur. Donc 65% de ceux qui aiment au moins... Alors, comment avons-nous déterminé un lecteur dans l'enquête ? Parce que... question de méthodologie, là aussi. Donc, nous avons déterminé un lecteur, nous avons proposé, c'est la liste qui est en bas, vous voyez sur le tableau, une série de choses qu'on peut lire. Et nous avons demandé de cocher dans la liste que les gens lisaient. Et donc, nous avons considéré comme lecteur, alors après on pourra en discuter, mais nous avons considéré comme lecteur des réponses, des jeunes qui répondent oui, qui cochent au moins 3 des 7, et en particulier des gens qui ne cochent pas seulement la réponse BD manga. Alors, c'est pas parce qu'on est hostile à BD manga, mais c'est parce qu'on a une définition de la lecture qui ne se limite pas justement à la lecture de ce type de document. Voilà. Donc, ceci étant défini, 65% de ceux qui disent, se disent lecteurs avec cette définition déclarent justement écrire, voyez, avec une fréquence extrêmement importante, contre 52% de ceux qui ne sont pas caractérisés comme lecteurs, c'est-à-dire qui ont coché seulement une case ou même pas du tout parfois, parce qu'il y en a quelques-uns qui n'ont rien coché. Donc, il y a quand même une corrélation importante, il y a un écart qui n'est pas négligeable. Et puis, troisième chose aussi à laquelle on s'attendait quand même un peu, mais qui est confirmée, c'est que les jeunes sont toujours extrêmement convaincus que l'écriture, écrire, ça permet de se souvenir. Et c'est dans la liste des items qui leur étaient proposés, cette fonction mémorielle de l'écriture, c'est celle qui arrive en tête du point de vue des pourcentages. Alors qu'on aurait pu penser peut-être que d'autres fonctions de la liste émergent fortement, celle-ci est arrivée très clairement en tête. Donc, rien d'absolument surprenant là-dedans, mais des confirmations qui sont quand même intéressantes. Je dirais qu'il y a beaucoup d'autres résultats plus fins que les quelques-uns là que je vous donne, mais qui permettent d'aller plus loin sur les questions de lecture et d'écriture. Alors, des constats moins attendus qui nous viennent de cette enquête. Première chose, alors là aussi, je disais que c'était une des questions qu'on se posait au départ, le rapport entre le numérique et substitution, complémentarité, etc. Eh bien, en fait, quand on regarde les pratiques d'écriture manuscrite et les pratiques en ligne, qu'elles soient d'ailleurs des pratiques d'écriture ou même les pratiques vocales en ligne, il n'y a pas la concurrence n'est pas au détriment, il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire que le numérique multiplie les occasions de rédiger et sans pour autant faire disparaître l'écriture manuscrite. C'est-à-dire que ceux qui écrivent le plus sur les réseaux, sont aussi ceux qui ont les pratiques d'écriture les plus diversifiées par ailleurs et les pratiques d'écriture manuscrite. Donc il n'y a pas d'exclusion de l'un par l'autre. Et ça, c'est, je pense, une chose très intéressante parce que ça fait partie des questions qu'on est nombreux à se poser. Donc, plus des trois quarts de ceux qui rédigent des messages personnels sur les réseaux sociaux tous les jours ou presque, ça c'est une donnée importante, écrivent plus que les autres. Donc, le discours qui est que, oh là là, ils sont toujours sur les réseaux, etc., et ce serait pour ça qu'ils n'écrivent pas, sur ce point-là, on a quand même une donnée qui semble aller en sens inverse. Deuxième constat un peu moins attendu aussi, une prime, alors j'ai écrit ponctuelle, parce que c'est pas tout le temps, mais quand même, les jeunes pointent le fait que l'écriture, écrire, à certains moments, quand on est en train de communiquer avec d'autres et avec ses pairs, c'est mieux que de communiquer oralement. Et pourquoi ? Quelle prime donne-t-il à l'écrit par rapport à l'oral ? Eh bien, ils disent que l'écrit, c'est plus précis. Ça leur permet de, entre autres, ce que j'appelle le suspens. Quand on écrit, on réfléchit avant de poser un mot. Si on veut dire quelque chose aux copains, on fait attention à ce qu'on va dire, etc. Et ça, ils le pointent dans leurs explications, entre autres dans les entretiens individuels. Ils le disent clairement. Donc l'écrit, c'est ce qui permet de choisir ses mots, faire attention à ce qu'on écrit, alors que la communication orale, elle est dans le flux et de ce point de vue-là, moins contrôlable. Alors ça va à l'encontre aussi d'une idée qu'on se fait peut-être des adolescents qui sont qu'ils sont dans la spontanéité, que allez, ce qui les intéresse, c'est que ça aille vite, que voilà, bon, à voir tout à l'heure. Et puis deuxième chose importante, c'est que l'écrit, il donne une prime aussi à l'écriture pour son authenticité. Et ça nous a vraiment étonnés parce qu'on ne s'attendait pas spécialement à voir ça. C'est que pour eux, quand on écrit, on est plus vrai que quand on parle ou quand on s'exprime oralement ou par rapport à d'autres. Donc, l'écriture est pointée de ce point de vue-là dans son rapport à la vérité, à l'authenticité, et c'est une chose qu'on a trouvée tout à fait intéressante, surtout quand on voit ce que nous mettons inversement derrière l'écriture, qui peut être aussi des choses qui n'ont rien dans le rapport à la vérité, qui ne sont pas du tout authentiques, etc. On peut tricher à l'écrit, mais pour les jeunes, c'est comme ça. Et enfin, je dirais que l'autre point que j'ai un petit peu fait émerger, c'est dans mon compte-rendu ici, c'est la question genrée et l'écart éventuel entre les pratiques des filles et des garçons. Alors, en fait, ce que l'on observe dans l'enquête, c'est qu'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que les filles et les garçons, ils écrivent tous un peu tout, on va dire, pour faire une conclusion un peu basique. Mais les filles ont une pratique plus diversifiée que les garçons. C'est-à-dire qu'elles écrivent, entre autres, je vais prendre un exemple, le journal intime. Il y a une très forte proportion de filles. Alors là, il y a un net écart qui écrivent des journaux intimes par rapport aux garçons. Mais les filles qui écrivent des journaux intimes écrivent aussi toutes sortes d'autres choses. Donc, il faut faire attention. Là aussi, c'est un biais possible des enquêtes là, sur le genre. Ce n'est pas parce que les filles écrivent beaucoup de journaux intimes qu'elles ne sont dans l'écriture que dans l'écriture, je dirais, affective, etc. Parce qu'en même temps, dans l'enquête, statistiquement, les filles sont celles qui arrivent en tête avec 2 points d'écart dans les réponses où il s'agit de répondre à la question selon vous, est-ce que l'écriture ça sert à structurer sa pensée ou à... Donc des questions où l'écriture joue un rôle rationnel. Eh bien, les filles pointent cette fonction de l'écriture majoritairement, plus que les garçons. Donc vous voyez, là aussi, il y a des risques de biais dans l'interprétation des résultats. Ce n'est pas parce que les filles écrivent plus de journaux intimes qu'elles ne sont que dans l'écriture affective, etc. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que les garçons se déclarent moins scripteurs de journaux intimes qu'il faut prendre le résultat tel quel. Alors, les entretiens qualitatifs ont été très intéressants de ce point de vue-là, parce que, par exemple, ce qui est apparu dans les entretiens qualitatifs, c'est la réticence des garçons à déclarer qu'ils écrivent un journal intime. Parce que journal intime, c'est connoté féminin. Et donc, ce qu'ils disent, non, c'est pas un journal intime. Je tiens un journal de bord. Donc, journal de bord, ça fait un peu maritime. Donc, ça, ils se l'autorisent. Donc, vous voyez, les termes utilisés dans les questionnaires sont là aussi sujets à caution. Donc, c'est tout l'intérêt des entretiens qualitatifs, c'est d'aller cerner un peu plus ces questions-là. Et là, j'ai extrapolé, parce que, encore une fois, c'est peut-être une question qui me préoccupe, mais par rapport aux pratiques garçons-filles, je pense qu'il y a, à certains moments, des pratiques qui sont caractérisées socialement, parce que ça dépasse les pratiques adolescentes, dans les revues, les magazines, etc., les extraits de journaux intimes, c'est toujours des journaux intimes féminins. Donc il y a une représentation sociale aussi de certaines pratiques qui jouent un rôle inhibant pour que des garçons s'investissent ou déclarent s'investir dans ces pratiques-là. Donc je crois que ça, c'est un sujet. On parle beaucoup des garçons en échec ou du moins un peu marginalisés dans les pratiques de lecture, dans les pratiques d'écriture, etc. Mais je crois que là, il y a une question qui serait sans doute un peu à creuser de plus près. Bon, je vais m'arrêter. Excellent. Ouais. J'avais encore quelques constats moins attendus. J'en dis juste un, celui auquel je tiens tout de même. C'est le statut du brouillon qui est apparu très nettement dans cette enquête. Les jeunes. L'importance, de l'outil qui est le téléphone portable. Parce qu'aujourd'hui, quand on pense écriture des jeunes, il faut penser portable. Et dans le portable, il y a la petite rubrique notes. Là, pour le coup, Anne Cordier, dans ses entretiens qualitatifs, l'a très bien montré. Ces notes jouent un rôle extrêmement important. Elles jouent le rôle de brouillon. Donc, par rapport aux questions qu'on se pose aussi sur ils sont dans l'immédiateté, etc., beaucoup ont déclaré, je n'ai pas le temps, mais que justement, ils notent des choses, puis après, ils les reprennent. Et puis après, donc, ça veut dire qu'il y a toute une pratique d'élaboration de l'écrit qui n'est pas du tout dans l'instantanéité, qui s'inscrit dans le temps, dans la durée, etc. Bon, je passe. On pourra peut-être revenir. Alors, est-ce que je laisse les choses en l'état, peut-être?
Non, ça me paraît important quand même de terminer sur justement
Donc, quelques pistes, c'était, voilà, après avoir brassé les différents rapports, les études, etc., c'est quelques questions comme ça que je vous renvoie, que je renvoie d'ailleurs aux chercheurs, aux médiateurs. Je pense qu'il y a une... Je ne commence pas forcément par le premier dans la page. Je pense à vous qui êtes beaucoup bibliothécaire et voilà, à votre exercice professionnel, mais il me semble qu'il y a vraiment un champ de réflexion sur justement la place, l'articulation des ateliers d'écriture qui sont maintenant fréquemment proposé en public, en bibliothèque, hein, et justement sur la corrélation entre ces ateliers d'écriture et les pratiques de lecture. Je pense que là, il y a quelque chose à réfléchir. Dans ce cadre-là, je pense qu'il y a à réfléchir sur l'intégration de ce que j'appelais les nouveaux outils et justement l'utilisation du téléphone portable. Qu'est-ce qu'on peut faire dans des ateliers en bibliothèque avec des jeunes qui ont des téléphones portables? Et je pense qu'il y a à mon avis, il y a une mine de choses à faire qui permettrait justement, depuis la rubrique notes, l'utilisation de l'appareil photo pour aller chercher des citations dans les livres, etc. Je pense qu'il y a une mine de choses qu'on pourrait explorer. Donc, ne jetons pas les portables, au contraire, faisons-les entrer pour s'en servir autrement. Donc c'est ce que j'appelais intégrer les fonctionnalités et usages du portable pour favoriser les pratiques d'écriture, mais aussi de lecture. Et je le disais, pour les favoriser auprès des jeunes en difficulté. Et entre autres aussi, utilisons dans les portables la fonction vocale, parce que beaucoup de jeunes en difficulté dans les pratiques d'écriture, par exemple, hein, qui n'osent pas écrire, etc., si on s'appuie sur les fonctions vocales du portable, par exemple, on commence par dire quelque chose. On ne veut pas l'écrire parce qu'on ne sait pas écrire, etc. On commence par le dire. Et en s'appuyant sur ce qui est dit, on peut revenir vers l'écrit. Et vers l'écrit, on peut revenir aussi vers la lecture, etc. Donc, je crois que là, il y a des choses aussi à regarder de ce côté-là. Qu'est-ce que je peux encore garder là-dedans? Oui, je vais prendre deux choses que j'avais notées et les mettre ensemble. Dans l'enquête, ce qui est apparu clairement aussi, et ça nous renvoie à nos responsabilités, je m'inclus là-dedans en tant qu'enseignante, c'est une demande des jeunes à être formés à certaines choses, et en particulier à l'écriture fonctionnelle, ce que j'appelais l'écriture fonctionnelle. Ils disent, voilà, ils savent pas écrire des mails, par exemple. Hein, et ça, c'est appris où ? C'est à quel moment le fait-on, etc. Donc, je crois que là aussi, on est beaucoup tous sur l'écriture, alors la lecture bien sûr, mais l'écriture de littérature, l'écriture de fiction, etc. Mais il y a d'autres pans de l'écriture, et qu'on essaie d'investiguer dans l'enquête, qui sont à développer. Et là aussi, je pense qu'en ayant en tête que nos publics sont des publics justement très hétérogènes sur le plan des compétences, sur le plan de la culture familiale, sur le plan... Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais ce sont des choses qu'on peut avoir en tête à partir de ces quelques résultats d'enquête, beaucoup plus développés dans le rapport final.
Merci beaucoup, Christine. Désolée de vous mettre la pression, mais comme on a parié sur la possibilité de donner la parole à la salle, on va pas lui supprimer. Et j'aime beaucoup cette idée de la fonction note dans le téléphone portable. Hein, c'est le réseau social avec soi-même, hein, d'une certaine façon. Et ça mérite vraiment d'autres investigations. Vous avez sans doute, évidemment, des questions. Je pense que... Alors évidemment, vous aurez accès à l'intégralité des résultats de l'enquête à la rentrée, comme le disait Christine, hein, au mois d'octobre.
Hein, octobre.
Début octobre. Voilà. Il y a une première question au fond, là. Ouais.
Et il y aura pas uniquement sur l'enquête, mais nous ferons un colloque en décembre sur justement la question des jeunes et de l'écriture. Dans lequel il y aura bien sûr comme noyau l'enquête, les résultats, le rapport, mais aussi d'autres questions justement posées aux activités en bibliothèque, aux activités périscolaires, etc.
Dans les premiers résultats que vous avez donnés, vous dites que c'est 33% des jeunes qui déclarent que ça ne sert à rien d'écrire. Il y a une corrélation avec... Il y a 33% des jeunes qui déclarent que ça ne sert à rien d'écrire, et il y a une corrélation avec leur catégorie sociale. Mais vous parliez au début du fait que vous cherchiez le profil social des jeunes qui écrivent, mais j'ai l'impression que vous ne l'avez pas forcément déterminé dans les réponses que vous avez apportées. Donc est-ce que vous pourriez en dire plus là-dessus, sur qui sont les jeunes qui écrivent.
Les jeunes qui écrivent, quand ils, justement qui déclarent écrire, soit presque tous les jours, etc. Quand, du point de vue sociologique, vous voulez dire ouais. Ah ben, ils sont justement, les parents sont CSP+, ou c'est à l'opposé de la catégorie que j'ai pointée là, dans le, c'est très net. Hein. C'est-à-dire que quand je dis CSP-, c'est, on voit des parents qui n'ont pas de profession, sont au chômage, sont, ou ont des métiers qui sont justement des métiers très peu rétribués, n'ont pas fait d'études, puisqu'il y avait... ce que je n'ai pas dit, c'est que le Crédoc, quand il a fait l'enquête, il y a le questionnaire qui est passé auprès des adolescents, mais avant ce questionnaire, parce qu'entre autres, quand vous avez des mineurs, vous êtes obligé, bien sûr, de demander l'autorisation des parents, ça permettait de passer un questionnaire aux parents sur, justement, ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient, leur métier, leur formation, etc. Et donc, c'est à partir de ces données-là qu'on fait la corrélation. Voilà. Donc, je dirais, c'est tous ceux qui ne sont pas CSP-. Hein. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a raisonné.
Merci.
Bonjour. Vous avez défini assez précisément ce que vous entendiez par des lecteurs. Oui. Mais il me semble que vous n'avez pas aussi précisément défini ce que vous entendiez par les scripteurs. À partir de quel moment vous considériez que les adolescents avaient une pratique d'écriture ou pas ?
Oui, donc justement, puisque au départ on cherchait tout ce qu'ils pouvaient écrire, donc on a fait une liste qui était la plus ouverte possible, et je dirais que c'est, alors on a, pour le moment on n'a pas fait un, juste on n'a pas avancé un chiffre, hein, mais je pense qu'à la fin de l'analyse de tous les résultats, on aura un scripteur quand il sera justement sur 3 ou 4 genres d'écrit, et pas seulement justement sur l'écriture de type fictionnel ou telle qu'on la définissait tout à l'heure. C'est-à-dire, scripteur, celui qui écrit dans des situations variées, avec des usages variés, à partir d'un certain nombre de, justement, d'un certain nombre de genres d'écrits, hein, diversifiés.
Donc plutôt que des catégories parfaites, il y aura plutôt des degrés de,
voilà, des degrés
d'écriture.
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir, un type, une catégorie de scripteur qui n'écrit que des listes, je vais aller à l'extrême, hein, que des listes de choses à faire. Bon, est-ce qu'on peut catégoriser ce scripteur-là comme un scripteur ? Bah, vous voyez bien que ça va être une question, après c'est une question d'appréciation. Hein, mais comme la définition du lecteur, je dis celle qu'on a posée, je ne prétends pas qu'elle est... et d'ailleurs, je vais vous dire, elle a été très discutée. Le Crédoc n'avait retenu au départ que 2 éléments, 2 réponses suffisaient pour lui à définir un lecteur. Et c'est nous qui avons dit, mais attendez, quand les 2 réponses, c'est manga et BD, nous, ça ne nous suffit pas pour définir un lecteur. Et donc, on veut qu'il y ait une 3e catégorie, au moins une 3e catégorie. Donc, pour les scripteurs, c'est pareil. On va dire que, voilà, la réponse à part la liste de courses, pour nous, ça ne va pas être une définition du scripteur. Ça ne va pas suffire. Et scripteur, celui qui utilise l'écriture dans des usages variés, à des fins diversifiées, et avec une certaine fréquence. Hein, donc...
Merci. Est-ce qu'on considère que, par exemple, l'écriture de rap, de slam, de chansons, ça fera partie aussi de l'écriture ? Même si c'est pas écrit, j'allais dire, c'est pas script, c'est chanté, mais c'est enregistré en vidéo, est-ce que... Je suis là.
Ah oui, mais,
mais voilà. Mais est-ce que voilà, ça peut faire partie quand même de...
Ah bah absolument. Dans la liste des choses qu'on peut écrire, ça a été mis. Et justement, dans les, comment dire, dans l'enquête écriture, nous essayons de cerner, parce que j'ai parlé du fait que pour beaucoup, ça sert à garder la trace des choses, ça sert, mais il y a toute la dimension créative, hein, de l'écriture comme pratique créative. Eh bien, dans ce cadre-là, bien sûr qu'il y avait toute une série de questions pour identifier les pratiques créatives du type écriture de chansons, écriture de rap, etc. Oui, oui, c'est présent dans l'enquête. Et d'ailleurs... dans les réponses sur ce point, du côté des écritures créatives, c'est ça qui apparaît quantitativement assez, de façon assez élevée dans les réponses. Bien sûr.
Oui, bonjour. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention qui est vraiment très intéressante. Voilà, moi je voulais soulever vraiment le fait que au congrès de l'ABF qui s'est déroulé il y a quelques jours, on a eu une intervention qui était très complémentaire de la vôtre, de Jeanne Seignol sur les pratiques des publics adolescents. Et je trouve que c'est intéressant tant ce que vous dites que ce qui s'est dit au congrès de l'ABF lors de cette intervention, parce qu'on voit qu'il y a une évolution dans la pratique de lecture, dans la manière de le faire pour les jeunes, au niveau des usages, aussi bien au niveau de la lecture que de l'écriture. Et je trouve que c'est très intéressant pour nous, bibliothécaires, parce qu'en fait, ça nous invite aussi à repenser la façon dont on construit nos actions à leur égard, dont on construit nos actions de médiation, dont on construit la façon dont on leur propose des ressources. Et je trouve que, en fait, c'est très, très inspirant. Voilà.
Merci. Alors, je n'ai malheureusement pas entendu cette... cette intervention, donc je ne peux pas m'inscrire ou en complémentarité. Mais oui, si justement ce type de recherche pouvait aboutir à justement faire réfléchir chacun, hein, parce que voilà, et puis apporter peut-être des. Encore une fois, il n'y a pas de solution dans cette enquête, hein, mais quand même des petites choses qui s'ouvrent ici et là, qui peuvent susciter peut-être des idées, des pratiques différentes. Et alors. Bon, surtout, je crois que c'est pour ça qu'on est entré là par l'écriture. L'idée, quand même, c'est de dire l'écriture, ce n'est pas seulement le débouché de la lecture, mais l'écriture, ça peut être aussi le moteur et l'accompagnement de la lecture, mais même le moteur. Et ça, comment dire, on a quand même un peu de mal à le faire passer, je dirais, dans la tradition franco-française. Parce que nous sommes dans une histoire des pratiques, hein, d'ailleurs pas des bibliothécaires, hein, mais même en didactique, hein, dans l'enseignement, où l'écriture est toujours seconde. C'est-à-dire on apprend d'abord à lire, alors à écrire, je ne parle pas du graphisme, hein, mais à écrire au sens d'écrire des phrases, des choses qu'on veut dire. Et ensuite, on écrit. Et il y a eu une tentative dans l'entre-deux-guerres, avec ce qu'on a appelé l'éducation nouvelle, avec des gens comme Célestin Freinet, comme des Tchèques aussi, qui réfléchissaient sur cette question et qui ont essayé d'inverser le mouvement et de dire ce que l'enfant a d'abord envie, ou le jeune, alors pour nous le jeune, mais l'enfant a d'abord envie de faire, c'est de s'exprimer, c'est de dire des choses. Il est plus dans ce mouvement-là que dans la réception. Et du coup, en tant que médiateur, il faut qu'on aille de ce côté-là et qu'on lui donne la parole, qu'on lui donne les moyens d'abord d'agir. Et donc l'idée de cette pédagogie nouvelle, d'éducation nouvelle, c'était de mettre en avant d'abord l'activité d'écriture. Et dans le travail de Célestin Freinet, hein, justement, Freinet, ce qu'il fait faire à ses élèves, avant, pour leur apprendre à lire, il leur fait écrire des choses, et il a une imprimerie, etc., etc.
Le journal.
Voilà, le journal. Donc, mais on a oublié. Disons qu'il y a encore des classes Freinet, il y a encore... Mais disons que c'est ce renversement extrêmement intéressant et qui donne... qui rend l'élève, là, en l'occurrence, mais le jeune actif, d'abord, et ne le met pas en situation de réception, parce que la lecture, c'est quand même de la réception, même si aujourd'hui, les théories du lecteur montrent que c'est la co-construction, le lecteur est actif, etc. D'accord, mais... du coup, ça peut être intéressant du point de vue de la médiation, justement, d'effectuer le renversement.
Peut-être une toute dernière question, s'il y en a.
Bonjour, moi je me demandais si vous aviez interrogé l'écriture de son agenda de façon très très triviale, de l'emploi du temps, parce que dans les bibliothèques universitaires, lire que les étudiants qui avaient l'habitude de tenir un agenda de leurs rendez-vous, de leurs cours, etc., étaient plus facilement de bons étudiants et en tout cas arrivaient à gérer les contraintes d'emploi du temps. Donc voilà, quelque chose de très trivial à vous poser.
Comme justement l'écriture comme structurante, voilà. Du coup. Voilà. Alors, on n'a pas, je ne crois pas qu'il y ait une question de mémoire sur l'agenda dans le questionnaire, mais en revanche, on a vu apparaître l'agenda... d'une drôle de manière, c'est-à-dire que d'une manière complètement différente, c'est ce que j'appellerais des agendas un peu décoratifs, Donc c'est dans les pratiques d'écriture qui voient plutôt la fonction décorative de l'écriture, vous savez, le graphisme, la calligraphie, etc. Et là, il existe aujourd'hui des modèles qui sont en ligne d'ailleurs, enfin moi j'ai découvert ça, hein. Alors c'est un nom d'ailleurs, j'ai oublié, voilà. Et donc ça, on l'a vu apparaître dans les pratiques déclarées des jeunes, et d'ailleurs déclarées plutôt féminines, voilà. Mais avec, quand on avait un questionnement auprès d'un ou deux jeunes qui avaient déclaré ça, avec une déclaration assez étonnante, c'est-à-dire ils fabriquent l'agenda en question, enfin bon, mais ensuite, ils ne l'utilisent pas forcément. Donc, tout l'effort est mis sur l'aspect décoratif, le, voilà. Donc, ce n'est pas très concluant par rapport à ce que vous évoquez. Non, sinon, on n'a pas posé la question, honnêtement.
Il y avait une toute dernière, voilà, je vous l'accorde, puisque vous aviez levé la main, et j'assume le
débord.
Le retard.
Merci beaucoup. Oui, j'avais une petite question. Je me demandais si vous vous étiez penché sur la question de l'intelligence artificielle dans le processus d'écriture des jeunes.
Gros dossier. Mais non, on a fait cette enquête trop tôt. Ouais. Tout le. Alors, il y avait déjà l'intelligence artificielle en action, etc. Mais voilà, pas aussi. Là, moi, je suis frappée du fait que ça a émergé là depuis quelques mois. Quoi. Non, mais dans le discours social. Hein. Et c'est vrai que du coup, il faudrait faire un supplément d'enquête. Hein. voilà, ce serait très intéressant. Mais alors, je vous rassure, on ne l'a pas fait dans l'enquête, mais on compte l'aborder lors du colloque de décembre.
Eh ben voilà, c'est une jolie façon de conclure. Rendez-vous en décembre. Merci beaucoup, Christine. Et rendez-vous à l'automne pour l'intégralité des résultats. Voilà.